Et voici le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Impossible de danser avec un masque sur le visage. Les acteurs du spectacle vivant interpellent le gouvernement à l'aube d'un conseil de défense. L'exécutif doit peaufiner son protocole sanitaire de rentrée. Et en attendant, nous avons rencontré le gérant d'un célèbre cabaret. Son regard à suivre.
Et puis nous ferons ensuite le point sur la production de masques textiles en France. Les entreprises s'organisent, les stocks grandissent.
Quand la crise du logement s'annonce violente, vous l'entendrez dans quelques instants, les migrants, eux, sont chassés des villes dans le nord de la France. La maire de Calais s'en expliquera dans cette édition.
Et puis nous irons, Clara, aux États-Unis où a débuté hier soir la Convention nationale républicaine. Elle est dominée par l'ambition personnelle de Donald Trump.
Enfin, zoom sur un accélérateur de particules unique au monde. Il va permettre des observations avec une qualité d'image encore jamais atteinte et il est activé à Grenoble aujourd'hui. Vous saurez tout sur le synchrotron 4e génération. Et puis c'est Frédéric Seyss qui nous rejoindra pour le billet politique à 8h16, il se demandera ce matin si le dialogue apaisé est encore possible dans notre démocratie. Réparer la confiance pour mieux prévoir la relance. L'exécutif français réunit ce matin un conseil de défense à partir de 10h à l'Élysée. Autour d'Emmanuel Macron, les principaux ministres concernés doivent finaliser les protocoles à appliquer pour la rentrée des classes et pour celles dans les entreprises. Puisque nous parlons dans les matins de France Culture ce mardi de l'économie post-Covid, arrêtons-nous sur le secteur en grande souffrance qui en attend beaucoup. La culture et les spectacles vivants notamment à la depuis près de 6 mois. Les professionnels devraient rencontrer le Premier ministre Jean Castex ces prochains jours, avant des annonces prévues vendredi pour l'ouverture du Festival du film francophone. Anne Lamotte s'est rendue pour vous au Moulin Rouge, dont les couleurs sont un peu ternes.
C'est un des cabarets les plus célèbres de Paris.
Et là, vous voyez, une salle vide.
En effet, dans la grande salle, style Belle Époque, devant le rideau baissé, les chaises, 900 chaises, sont retournés sur les tables.
Il n'y a même pas de lumière.
Non.
Le Moulin Rouge est comme abandonné.
Un silence total. Il n'y a rien. Voilà. Et c'est comme ça depuis maintenant le mois de mars.
Alors évidemment, Daniel Stévens, le délégué général du CAMULC, le syndicat national des cabarets et des music-halls, ne rêve que d'une chose, rouvrir les portes. Mais dans les grands cabarets parisiens, ce sont parfois jusqu'à 50 danseuses et danseurs sur scène. Masqués et à distance les uns des autres, impensable.
Faire un pas de deux sur scène, comment faire? Vous ne pouvez pas vous prendre dans les bras?
Ça ne va pas faire de portée non plus, j'imagine.
Non. Ben non, impossible.
Inenvisageable non plus, d'après lui, de tenir le coup économiquement avec des salles à moitié pleines.
Il faut qu'on ait un taux de remplissage de 80-85%.
Et pendant ce temps-là, les sports de combat sont autorisés et on peut s'asseoir côte à côte dans le train. Daniel Stévens ne comprend pas.
Il y a une incohérence aujourd'hui, oui.
Et il s'inquiète de plus en plus. Car même si le feu vert est donné bientôt pour rouvrir les cabarets normalement, il faut, dit-il, compter 2 mois minimum.
Une danseuse ou un danseur qui fait un cancan, c'est comme un sportif de haut niveau. Il leur faut d'abord 15 jours de remise en forme physique, plus après la période de répétition. Donc en moins de 2 mois, on ne peut pas rouvrir. C'est impossible. On n'est pas en train de rouvrir un café. Un café, on remet les cuisines en route, c'est bon. Là, non.
Le tout avec des trésoreries à zéro. On entre définitivement, conclut Daniel Stévens, dans la zone rouge.
Annonce attendue donc pour le spectacle vivant en fin de semaine. Pour les entreprises maintenant, plus généralement, notez que les PME vont bénéficier d'un nouveau système d'emprunt à très long terme. Bruno Le Maire, ministre de l'économie, l'affirme ce matin dans les colonnes des Échos, à une semaine, rappelons-le, de la présentation du plan de relance. Voilà pour les arbitrages économiques. Il s'agit aussi en ce moment d'anticiper le retour masqué des élèves au collège et au lycée. Le débat de la gratuité du masque prend de l'ampleur au nom de la lutte contre les inégalités. D'ailleurs, certaines collectivités distribuent déjà des masques dans les Hauts-de-France, en Seine-Saint-Denis ou encore en région Occitanie. Des masques textiles, souvent lavables. Mais d'où viennent-ils? Guillaume Gibault, patron de l'entreprise textile Le Slip français, fait le point pour nous ce matin. Il est chargé par le gouvernement de trouver justement des débouchés pour la production française de masques.
Alors pour ce qui concerne les masques textiles grand public, on est capable de fabriquer entre 20 et 25 millions de masques par semaine. Donc clairement, il y a largement de quoi fabriquer assez de masques textiles pour subvenir aux besoins dans le cas d'une deuxième vague ou en tout cas dans le cas des conditions plus strictes qu'on est en train de vivre et qu'on voit changer au jour le jour. Pour vous donner un ordre d'idée, au plus fort de la crise, au mois de fin avril, début mai, on fabriquait 5 millions de masques par jour. Au sein du groupement Savoir-Faire Ensemble qui comptait jusqu'à 1400 entreprises. Aujourd'hui, il reste à peu près 500 entreprises qui restent mobilisées en France pour la fabrication de masques textiles. Et si tout le monde se met à plein régime de fabrication, ça donne ces 20-25 millions par semaine. Donc en tout cas, pour ce qui est des masques textiles qui sont pas les masques qui servent le personnel soignant, mais qui sont les masques pour le grand public, comme le nom l'indique, là, il n'y aura pas de rupture de stock sur ces masques-là. On est plutôt aujourd'hui encore dans la situation inverse, encore pas mal de stock auprès chez les fabricants et chez la distribution au sens large.
Des propos recueillis par Stanislas Vazak. Avec ou sans masque, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et l'Île-de-France sont placées sur la liste rouge de l'Allemagne, des zones à risque, dit-elle, en raison du nombre élevé de contaminations au Covid-19. Les voyageurs qui reviennent donc de ces zones devront se soumettre en Allemagne à un test de dépistage et s'isoler dans l'attente du résultat. L'Île-de-France, où nous restons un instant, car la région a décidé d'aider ses habitants gravement malades ou l'ayant été, les aider pour emprunter pour acheter un premier bien immobilier. La région Île-de-France prendra en fait à sa charge le coût supplémentaire demandé pour assurer le prêt à cause de l'état de santé des malades. La convention doit être signée aujourd'hui. Elle est déjà applaudie par les associations qui espèrent également que les collectivités et l'État anticipent la bombe à retardement des explosions locatives, des expulsions locatives. Les conséquences de la crise sanitaire pourraient être désastreuses au printemps prochain. C'est ce que nous dit Jean-Baptiste Hérault. Il est porte-parole de l'association Droit au logement.
Il y a beaucoup d'impayés qui sont accumulés. Le gouvernement n'a rien prévu dans ce domaine-là. Or, qu'est-ce qui va se passer plus tard? On va avoir beaucoup de procédures d'expulsion à partir de la fin de cet automne, auxquelles se rajouteront les expulsions qui n'ont pas été réalisées cette année. Il y en a beaucoup. Donc, on risque d'avoir, là, de se retrouver en 2021 avec une situation de crise. Donc, pour nous, il faut que le gouvernement prenne ses dispositions tout de suite. Il faudrait, d'une part, mettre en œuvre la loi de réquisition, on n'a jamais compté autant de logements vacants dans notre pays. Deuxième point, il faut débloquer de l'argent pour les fonds de solidarité logement, c'est-à-dire les aides aux impayés de loyer pour éviter de mettre des gens à la rue. Et puis, il faudrait aussi prévoir massivement la production de logements sociaux, c'est-à-dire investir dans la production de logements sociaux, ce qui n'est pas le cas. Il faudrait maintenant agir aussi sur le fonds, c'est-à-dire juguler la spéculation immobilière qui continue. Contre toute attente, les prix de l'immobilier continuent à monter.
La bombe à retardement du logement en France, c'est aussi un article internet à retrouver sur franceculture.fr. Sachez d'ailleurs que ce matin, le squat le plus important de l'agglomération de Caen est en cours d'évacuation. Information rapportée par nos confrères de France Bleu Normandie, il s'agit d'un immeuble de 36 appartements occupé illégalement depuis un an par plus d'une centaine de personnes. Eux sont régulièrement repoussés. Les quelques milliers de migrants arrivés sur le littoral du nord de la France dans l'espoir de gagner l'Angleterre. Depuis quelques temps, les villes de ce littoral font tout pour décourager et pour éloigner ces exilés. C'est un reportage France Culture de Tara Schlegel.
Des grillages de 4 mètres, des fils de fer barbelés entourent le port de Calais, tout comme la zone industrielle des Dunes, où 500 personnes campaient encore avant d'être délogées mi-juillet par la police. Emmanuel Bouin, journaliste indépendant, ne reconnaît plus la zone portuaire où il a grandi.
Mais vous voyez, même là, ils ont mis des grillages pour empêcher les migrants
de se mettre sous les ponts.
Voilà, de se mettre sous les ponts. De toute façon, en ce moment, on ne se pose pas. Il ne faut pas que les migrants se posent. Donc on les chasse, quoi, on les empêche d'accéder. Et là c'est le summum. C'est la station essence Total.
Ouais. Oh là là. Oh,
voilà.
Donc, mur de séparation Palestine-Israël.
C'est exactement ça.
C'est incroyable.
Voilà. C'est-à-dire que là, c'est une zone de transit avant d'embarquer sur les bateaux. Et donc là, les camions, s'ils étaient assaillis par les migrants, donc la station essence, on avait marre de se faire... Voilà, ils ont dit, allez, on va construire le mur.
L'autre point sensible en ville, c'est l'accès à la nourriture. Le Food Calais Collective, fondé par des Britanniques, rentre tout juste d'une distribution ce soir-là, empêché par la police, devant la gare, raconte Rory, l'un des bénévoles.
Ça avait l'air très effrayant. Il y avait des fusils. Et ils disaient qu'ils nous arrêteront. Ils ont poussé un migrant pour l'arrêter de prendre une bouteille d'eau.
C'est de l'intimidation, c'est des menaces.
Après ça, je me sens mon corps tap tap tap.
Mais ça arrive quand même pas tous les soirs.
pas tous les soirs, mais c'est souvent qu'on est contrôlé. Peut-être 30%.
Pratiquement un tiers des repas prévus ne seraient donc pas livrés. Mais il y a presque plus grave, renchérit Laure Pichot. Son association, Utopia 56, se rend depuis 4 mois dans une commune toute proche de Calais.
À Grande-Synthe, on a décidé de commencer par des distributions d'eau potable, car c'est le besoin premier qu'ont exprimé les personnes exilées qui étaient sans-abri à Grande-Synthe. Notre record, c'était la semaine dernière, c'est 3870 litres. En moyenne, c'est 3000 litres par jour.
Il y a 400 exilés sur cette zone, conclut la jeune femme, et le premier point d'eau est à plus de 3 km.
Voilà pour le travail des associations et pour leur point de vue. Mais que font les autorités sur place? Pas grand-chose. La maire de Calais, Natacha Bouchard, l'assume et s'explique.
Nous, on ne fait plus rien. On ne fait plus rien parce que on a essayé plusieurs dispositifs qui ont été des distributions de repas, des douches, des lieux d'accueil. Et en fait, on s'est aperçu que dès qu'on mettait malheureusement ces lieux à disposition sur des personnes qui ne demandent rien à la France, eh bien, on créait de fait un appel d'air. Et on n'est pas en capacité de se retrouver dans la situation de 2016. Où des campements de près de 10 000 personnes s'étaient installés dans une ville à côté d'une ville. Donc aujourd'hui, toute la responsabilité pèse sur les autorités de l'État en termes d'hygiène, de douche, en termes de distribution des repas. Et même quand on doit faire appel à des services de nettoyage, eh bien, on demande à l'État de rembourser puisqu'il s'agit de l'argent public des contribuables calaisiens.
Une enquête de Tara Schlegel à Calais, cette ville qui se protège selon les mots de sa mère. Enquête à retrouver sur franceculture.fr.
8h11, suite du journal de Clara Lecoq-Réal sur France Culture. Donald Trump a été officiellement investi par les Républicains pour la présidentielle de novembre.
Oui, lors de la convention nationale du parti aux États-Unis, convention qui a débuté hier soir et qui doit durer 4 jours. Le camp du président sortant a commencé par défendre le bilan de Trump à la Maison-Blanche. Retour sur cette soirée avec notre correspondant Grégory Phillips. Welcome
to the 2020 Republican National... Pendant 2h30, tout ou presque, tourne autour de Donald Trump, sa personnalité ou ses résultats, son bilan économique, les milliers de vies qu'il a sauvées pendant l'épidémie de coronavirus, selon une infirmière de Virginie-Occidentale, appelée à témoigner dans cet auditorium de Washington. Même le fils du président a été convié à la tribune.
Good evening, America. I'm Donald Trump Jr.
Donald Trump Jr. accuse Joe Biden d'être la marionnette de la gauche radicale.
From St. Louis, Missouri.
Et puis voici, enregistré chez eux, Patricia et Mark McCloskey, ce couple de Saint-Louis, Missouri, qu'on avait vu fin juin, arme à la main, défendre sa maison et menacer des manifestants Black Lives Matter. Si Biden est élu, assure-t-il, alors ce sera le chaos et la fin de la tranquillité pour nos banlieues. Donald Trump, lui, est intervenu un peu plus tôt dans la journée, depuis Charlotte, en Caroline du Nord, lieu officiel de la convention, pour accuser les démocrates de vouloir voler l'élection. Cette histoire de vote par correspondance et ces 80 millions de bulletins envoyés à des électeurs, ça n'est pas juste, ça n'est pas bien. Faites très attention, surveillez bien ce qui va se passer, parce que nous devons gagner. C'est l'élection la plus importante de toute l'histoire de notre pays. Tim Scott, le seul sénateur noir du Parti républicain, conclut cette première soirée avec un discours plus consensuel et à même de séduire au-delà de la base des militants trumpistes. Ce soir, on attend les prises de parole du secrétaire d'État Mike Pompeo et de l'épouse du président, Melania Trump.
C'était notre correspondant outre-Atlantique, Grégory Phillips. Les États-Unis encore, où la colère contre les violences policières est ravivée. Des milliers de personnes ont manifesté hier soir à Kenosha, dans le Wisconsin, la ville où Jacob Blake, un homme noir de 29 ans, a reçu plusieurs balles dans le dos dimanche à bout portant. Des tirs venant d'un policier, son état reste critique ce matin. L'Allemagne conclut à l'empoisonnement de l'opposant russe Alexeï Navalny, accueilli sur son sol. Berlin a donc demandé hier à la Russie d'en juger les auteurs. Et dans la soirée, dans la foulée, l'Union européenne a appelé Moscou à une enquête transparente et indépendante. Pour mettre un peu de lumière maintenant dans le studio de France Culture, terminons ce journal avec l'un des plus puissants équipements utiles à l'exploration de la matière, le synchrotron 4e génération. Il est mis en service aujourd'hui à Grenoble. De quoi s'agit-il, Olivier Aymon ?
Ce nouveau synchrotron, c'est une sorte de microscope géant qui produit un faisceau lumineux 10 000 milliards de fois plus brillant que celui produit par un scanner classique, celui que vous pouvez trouver à l'hôpital. Physiquement, cet appareil est un immense anneau de 844 mètres de circonférence dans lequel on accélère des particules qui se transforment au final en rayons lumineux ultra puissants, prêts à traverser la matière. Par exemple, un organe infecté par un virus. Jean Susini est directeur de la recherche à l'ESRFEBS, la dénomination officielle de la machine.
On peut faire une imagerie tridimensionnelle de cet organe à toutes les échelles, c'est-à-dire en partant de l'échelle globale de l'organe et en descendant jusqu'à l'échelle micrométrique, qui nous permet de visualiser les dommages qui font suite à l'infection ou la surinfection liée au Covid. Et en particulier la destruction de microstructures à l'intérieur des poumons ou à l'intérieur du cœur ou du foie.
Ce synchrotron, 100 fois plus puissant que le précédent, sera aussi très utile pour des expériences dans le domaine de l'archéologie, du patrimoine culturel ou en sciences de l'environnement. Un investissement de 150 millions d'euros porté par la France et 21 autres partenaires étatiques.
Et il a fallu un peu plus d'un an et demi pour fabriquer ce synchrotron. Scrutons à présent le ciel de ce mardi en France métropolitaine. Il pleut sur le quart nord-ouest de la France. Il fait beau au sud, comptez 16 à 24 degrés du nord au sud ce matin.